Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Marie Mindras est notre invitée, politologue au CNRS et aux séries de Sciences Po, professeure à Sciences Po, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Marie Mindras vient de publier La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin chez Kalman Levy. Marie Mindras, bonjour.
Bonjour.
Vladimir Poutine a été reconduit pour un cinquième mandat, 24 ans après sa première élection à la présidence de la Russie en l'an 2000. Et pour abriguer un nouveau mandat en 2030, la Russie pourrait ainsi connaître 36 années de poutinisme. Mais nous n'y sommes pas encore. Comment est-ce que, Marie Mindras, la longévité actuelle du maître du Kremlin a-t-elle été possible? Quels ont été ses outils?
Il est devenu un dictateur. Donc, il n'a pas été reconduit ni réélu à la mi-mars. C'était un plébiscite totalement fabriqué. Ce que, d'ailleurs, mes collègues et amis russes appellent « opération spéciale plébiscite ». Puisque Poutine veut toujours qu'on parle de la terrible guerre en Ukraine comme une opération militaire spéciale, eh bien, appelons toutes ces fabrications de type institutionnel et politique comme des opérations spéciales. Et d'ailleurs, c'était un scrutin, entre guillemets, mené par les administrations, le KGB, FSB, les polices qui contrôlaient, et bien entendu, des commissions électorales complètement à la solde du pouvoir.
Un détail par rapport à ces élections, l'électeur, avant de mettre son bulletin dans l'urne, doit en faire une photocopie qui est ensuite déposée juste pour vérifier que le vote a été...
C'est pire que ça. C'est que ce scrutin, entre guillemets, est totalement illégal, puisque il est contraire à tous les articles du préambule de la Constitution russe qui rappelle, dans la Constitution yeltsinienne de 1993, qui rappelle tous les droits fondamentaux, les libertés civiques et notamment le droit de vote libre, secret. Et donc, voilà. Ce n'est même pas un rite, c'est-à-dire que c'est une opération obligatoire et que même si, évidemment, les fraudes sont massives, mais c'est même avant cet exercice que tout a été complètement verrouillé par le régime, puisqu'il n'y a plus aucun candidat, un tant soit peu critique, les autres sont des annexes du Kremlin, que ceux qui ont voulu s'opposer à la dictature et à l'absence totale d'alternance et de succession, comme Alexei Navalny, qui, en 2018, voulait se présenter à la présidentielle et a été interdit. Et c'est parce qu'il avait voulu se présenter face à Poutine qu'il a ensuite été empoisonné, puis tué en février dernier, parce que ce que ne supporte pas Vladimir Poutine, après près de 25 ans au pouvoir, c'est qu'il y ait la moindre menace contre la totalité, l'absolu pouvoir qu'il a et qu'il prétend avoir pour l'éternité. C'est quand même un être mortel et on voit bien qu'il y a une sorte de fuite en avant, de ne pas pouvoir envisager une suite, finalement, à Poutine. Donc, de même, à l'intérieur du clan Poutine, il n'est pas question d'un successeur. Et il y a dans tout cela quelque chose de très mortifère. C'est-à-dire que Poutine, il vit dans la mort. Il utilise la violence extrême.
Vous dites qu'il vit dans la peur.
Il vit dans la peur et dans la mort, oui. La peur de la finitude, la peur du virus Covid. Il s'est bunkérisé pendant 18 mois pendant le Covid. Il a une méfiance pathologique. Il ne fait confiance à absolument personne. Il est de plus en plus enfermé dans sa forteresse vide. Et c'est pour cela qu'il peut finir par prendre des décisions insensées et qui... entraîne toute la Russie et tous les habitants de la Fédération de Russie au bord de l'abîme. C'est vraiment un pays qui, après, espérons-le, la défaite militaire de la Russie Et la chute du pouvoir poutinien, il y aura un travail considérable à faire pour reconstruire les institutions, la trame sociale, l'économie, le droit, la constitution en Fédération de Russie.
Alors, on y reviendra, bien sûr. Je reste quelques instants sur ce que vous évoquiez là tout de suite, Marie Mindras, la peur de Vladimir Poutine, une peur pathologique, une certaine paranoïa. Dans la présentation de votre ouvrage à Sciences Po récemment, vous évoquiez l'idée que Vladimir Poutine avait fait construire des bureaux à l'identique.
Absolument.
Dans plusieurs endroits de Russie. Dites-nous quelques éléments là-dessus.
Cela apporte une illustration de la pathologie de Vladimir Poutine. Il est important, quand on étudie un régime autocratique et corrompu, très personnalisé, qui devient une tyrannie guerrière, puisque c'est ce qui se passe depuis quelques années, on ne peut pas mettre de côté le comportement du dirigeant. Et à partir de l'étude que je fais depuis 25 ans, et même un peu plus, de Vladimir Poutine, je l'ai rencontré plusieurs fois dans les années 2000, mais en suivant son comportement, ce qu'il dit, la façon dont il traite les autres, le fait, cette sorte de désir irrépressible de faire la guerre aux Géorgiens, de faire la guerre aux Tchétchènes, de faire la guerre aux Ukrainiens, de détruire, enfin, il y a une sorte de pulsion de destruction. Ben, il me semble que tout expert doit prendre en compte ce facteur très important qui est le dérèglement de la personnalité de l'homme qui est tout puissant. Et que plus personne ne peut arrêter, parce que le principe même d'une dictature, c'est qu'il n'y a plus de garde-fous, il n'y a plus d'institutions. Et tous les hommes forts qui sont restés autour de Poutine, dans ce que j'appelle le noyau dur, ils n'ont pas quitté le noyau dur à temps, donc ils savent que leur sort est directement lié au sort du chef. Il est plus possible aujourd'hui pour le ministre de la Défense, pour le patron des services, pour le ministre des Affaires étrangères et d'autres, les chefs des deux chambres du Parlement qui n'en est plus un, il est plus possible pour eux de sortir de cet enfer de la guerre et de la dictature. Donc ils savent que tant qu'ils restent loyaux à Poutine, bon, ils sont encore là, mais qu'au moment où la maison Poutine tombera vraiment en morceaux, ils en seront les premières victimes. Et ce qui est normal, puisqu'ils sont tous sous sanctions, et à mon avis, ils seront, pour une grande partie de ces chefs, ils seront poursuivis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, puisqu'ils ont participé aux décisions et parfois ils ont directement participé à l'exécution des ordres poutiniens dans la guerre en Ukraine et les terribles exactions et bombardements de civils qui vont avec cette guerre.
Est-ce qu'on peut dire, Marie Mindras, aujourd'hui, que finalement le degré de résistance à Poutine est quasi nul en Russie ? Et j'ai cette question, vous parliez d'Alexeï Navalny, que vous avez eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Pourquoi l'avoir éliminé ?
Eh bien, justement, l'élimination d'Alexeï Navalny, d'abord la tentative d'empoisonnement en août 2020, qui aurait dû le tuer, c'est un miracle qu'il ait survécu. Et puis, le faire tuer dans ce camp à régime très sévère, dans le Grand Nord, où il faisait un froid absolument incroyable. Depuis plus de 3 ans, il était emprisonné, Navalny. Sa santé était très atteinte, et par les suites de l'empoisonnement de 2020 et par les conditions de c'était totalement inhumain, à la fois sur le plan physique et psychologique. Il n'avait eu, par exemple, aucun contact, même vocal, avec son épouse depuis plus d'un an. Et il n'avait pratiquement plus de visite d'avocat pendant les derniers mois. Donc cet homme très affaibli, qu'il a enfermé pour aussi longtemps qu'il le souhaite, tant qu'il est au pouvoir, Poutine, pourquoi ne pas tolérer que cet homme respire encore dans un camp où il ne peut pratiquement plus communiquer avec personne. Je crois que ça ne vient que confirmer mon analyse sur le mental de l'homme. Le fait même que cet homme vive était insupportable pour lui. Alors, sur la résistance, au contraire, la résistance se renforce. Et c'est un facteur que nous devons étudier. Parce que si nous ne l'étudions pas, nous tombons dans la désinformation du Kremlin, qui est de dire « c'est une dictature horrible, mais ça marche ». Nous pouvons gagner la guerre en Ukraine, ce qui est faux à mon avis. Nous n'avons plus aucun opposant, tout le monde est soumis. Et en plus, selon notre opération militaire spéciale, nous voulons absolument vous convaincre, vous occidentaux, que 87% des personnes qui auraient voté soutiendraient Poutine et l'opération militaire en Ukraine. Donc tout ça est totalement insensé, évidemment, et il semble qu'une très grande partie des habitants de la Fédération de Russie, je dis habitants de la Fédération de Russie, car 20% des habitants de cette fédération ne sont pas russes, et pour beaucoup vivent dans des républiques nationales à l'intérieur de cette fédération, comme les républiques du Nord-Caucase, comme la Bouriatie, la Carélie, le Tatarstan, le Bashkortostan, etc. Donc, une grande partie de ces personnes sait que Poutine est un dictateur, que ce n'était pas une élection et que les 87%, ça veut strictement rien dire. Il y a beaucoup de blagues qui circulent en Russie, mais ça fait déjà des années qu'on sait que l'homme n'a pas la légitimité d'un scrutin honnête, donc il n'a pas la légitimité populaire. Alors ce qui se passe, c'est que depuis des années, la résistance et la protestation avance, mais elle ne peut pas s'exprimer selon les canaux traditionnels. Il ne peut pas y avoir de grandes manifestations, il ne peut pas y avoir de grève, il ne peut pas y avoir de mouvement politique ou de parti, il n'y a plus d'association, il n'y a plus aucun canal institutionnel qui permet de rassembler et de communiquer des revendications. Donc, la plupart des revendications et des protestations se fait sur Internet et depuis le début de la guerre en Ukraine se fait aussi et porté par la diaspora à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, c'est aussi en Géorgie, en Ukraine, en Turquie et pas seulement en Europe ou en Amérique du Nord. Et cette résistance, d'abord, elle a existé de manière très forte pendant les années Navalny, c'est-à-dire environ de 2015 jusqu'à 2019, donc avant l'empoisonnement de Navalny, son mouvement politique avait réussi à rassembler des millions et des millions de personnes, et notamment des très jeunes. Et il avait ouvert des QG de campagne, puisqu'il faisait quand même campagne pour la présidentielle de 2018, même s'il ne pouvait pas se présenter. Il disait « voter pour n'importe qui, mais pas pour Poutine ». Il avait ouvert des QG dans plus de 40 provinces et républiques de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, sa chaîne Navalny Live et tous les réseaux sociaux, qui sont toujours animés par son excellente équipe et par son épouse Yulia Navalnaya, continue à attirer des millions et des millions de clics. Un autre élément important, c'est que depuis le début de la guerre, il y a toute une mobilisation contre la guerre et contre la mobilisation forcée des hommes. Et les comités anti-guerre, ainsi que les comités de mères et d'épouses de soldats, ont beaucoup plus de force qu'on ne le dit, et ils travaillent en liaison étroite, quotidienne avec les comités anti-guerre et tous les autres mouvements de résistance à l'extérieur de la Russie. Et on l'a bien vu au moment des funérailles d'Alexei Navalny. C'était vraiment un moment fort, un moment parce que c'était un recueillement et qui a eu lieu aussi sur Internet avec des millions de personnes, un recueillement des hommages dans une dignité, un calme, mais en même temps une tristesse et une colère, puisque on a vu des personnes oser dire des slogans anti-Poutine, mais très calmement, de temps en temps, donc de faire de cette marche funèbre un grand moment politique aussi.
Beaucoup de courage pour les personnes qui ont participé aux obsèques d'Alexeï Navalny. Est-ce que vous avez une idée du sort qui leur a été réservé à l'issue de leur participation?
On peut suivre quelques cas d'arrestation, mais en général, ce sont des personnes qui ont été ciblées, aussi dans des provinces perdues. Voilà, la police va faire un exemple sur une dame qui en avait assez de déposer des fleurs pour Navalny sur un monument aux victimes du goulag de l'époque soviétique, parce que la police passait toutes les deux heures enlever toutes les fleurs et qui a fini par mettre des fleurs dans la neige à côté d'une ville de Sibérie. Chacun, finalement, a trouvé des moyens de s'exprimer, mais le fait même que le régime donne l'ordre d'écraser les fleurs, de continuer à faire une pression maximale sur tous ceux qui soutiennent le mouvement de résistance, montre bien, à mon avis, que la dictature n'est pas si sûre d'elle.
Justement, est-ce que, et ce sera ma dernière question avant le journal Marie Madras, est-ce que le régime de Vladimir Poutine a conscience de son illégitimité?
Absolument. Le dictateur sait qu'il reste au pouvoir grâce à la transgression totale des règles qu'il a lui-même édictées. C'est ça le cœur d'une dictature. Il y a 10-15 ans, ce n'était pas une dictature. Aujourd'hui, c'est devenu une dictature. Il n'y a plus de constitution, de fait. Voilà, il n'y a plus aucune institution qui fonctionne. Même le gouvernement ne fonctionne plus comme un gouvernement. La Russie est aujourd'hui, je dirais, quasiment en loi martiale, en régime d'exception. Donc, Poutine peut faire absolument ce qu'il veut. Alors, est-ce que, dans leur récit fantasmagorique qu'ils construisent depuis des années, et qu'ils nous imposent, qu'ils tentent d'imposer également aux populations de Russie, est-ce qu'ils finissent par croire à leurs mensonges, à leurs récits?
Vous répondez à la question.
C'est tout à fait possible. À un moment, on sentait que Poutine, dans les années 2000, il était devenu un peu mystique, il était persuadé que la providence était de son côté, parce que tout allait bien pour lui, l'État devenait très riche, et tout le système corrompu devenait très riche aussi, grâce à des prix du pétrole et du gaz très très élevés. Donc, est-ce que, dans leur esprit dérangés, ils pensent que le peuple les soutient et qu'ils sont entourés d'ennemis, je n'en sais rien et je n'ai pas envie de me mettre dans leur tête. Mais quand on voit à quel point ils se sentent obligés d'apporter une démonstration fabriquée du fait que tous les Russes sont derrière eux et que tous les pays autour d'eux sont des ennemis et qu'ils sont obligés d'inventer des intentions de guerre des États-Unis et de l'Europe contre la Russie, on est même plus à s'interroger sur la légitimité et l'illégitimité. C'est l'instinct de survie qui domine au Kremlin aujourd'hui.
Marie Madras, on vous retrouve après le journal autour de votre livre, donc La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, paru aux éditions Kalman-Lévy. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Marie Mindras est notre invitée, politologue au CNRS et aux séries de Sciences Po, professeur à Sciences Po, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Marie Mindras vient de publier « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin » aux éditions Kalman-Lévy. Marie Mindras, la guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, quel est ce rapport de Poutine à la guerre? Est-ce qu'il y a un lien entre la situation qu'il vit en interne en Russie et ce besoin, alors j'ai presque envie de dire, de semer le chaos? C'est de cela dont il est question?
Oui, tout à fait. Ce sont des pulsions de mort et de destruction qui guident cette décision totalement insensée de lancer une guerre d'agression contre toute l'Ukraine en février 2022, alors que le but de guerre, détruire l'Ukraine, la dénazifier, démilitariser, était un but totalement inatteignable. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que les membres du Conseil de sécurité de la Russie, donc tous les hommes forts autour de Poutine, étaient contre cette décision du chef. Mais ils n'ont pas su l'arrêter, mais ils savaient très bien qu'ils ne réussiraient pas. Peut-être qu'ils ne pensaient pas que ce serait une telle déroute militaire pour leurs forces armées dans les premières semaines de la guerre. Mmh. Mais on sait aussi que les instructions qui avaient été données, c'est allez-y à fond pour les exactions. Que dès le deuxième jour de la guerre, les soldats commettaient des exactions contre les civils, des tortures, des balles dans la tête. Et cette pulsion, je dirais, de revanche, de rage, d'anéantir les autres, parce que pour Poutine, presque tous les autres sont des ennemis, eh bien, c'est directement lié à sa peur de perdre le pouvoir chez lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne voit pas sa survie en dehors de son poste de chef absolu avec le pouvoir de vie et de mort sur tout un chacun à l'intérieur de la Russie. Donc bien sûr, et c'est pour ça que cette guerre, qui est pour moi l'ultime guerre, parce que je pense qu'il n'a absolument pas les capacités, et son armée n'a pas non plus les capacités, de poursuivre des guerres ailleurs qu'en Ukraine, puisqu'il n'arrive déjà pas à
avancer. On pense à la Géorgie, la Moldavie, tout cela vous semble improbable, Marie-Mara?
Totalement, oui, totalement improbable. Mais, c'est pour ça que je l'appelle la guerre permanente, c'est que Poutine a toujours été en guerre. Il est arrivé au pouvoir en 99-2000 parce qu'il avait accepté de donner à l'armée et aux forces spéciales du FSB la capacité de prendre une revanche contre les Tchétchènes qui avaient gagné la première guerre. En août 1996, les militaires russes étaient en pleine déroute et ont dû partir. Il n'a jamais été élu de manière véritablement honnête, avec une vraie campagne. Et d'ailleurs, il a forcé sa chance par des attentats qui ont été commis à Moscou en septembre 1999 pour que les Russes aient très peur et se disent on a besoin de l'ancien chef du FSB pour nous protéger contre le terrorisme. Et on va retrouver cela dans les événements récents que nous allons peut-être aborder. Mais pour terminer sur ce besoin de confrontation et de guerre, il faut bien comprendre que ce n'est pas que la guerre sur un champ de bataille, c'est-à-dire la guerre, je dirais, traditionnelle, mais c'est une guerre totale dans tous les domaines. C'est la guerre de désinformation et de subversion. Et ça continue à fond en Moldavie, en Géorgie, en Arménie, en Biélorusse, et également, d'une certaine manière, chez nous. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est une arme que même un régime qui est d'une certaine manière en déliquescence, peut continuer. Parce que d'abord, les gens du FSB, ils savent très bien faire ça. C'est quand même leur spécialité depuis toujours. Et puis, c'est un petit peu le terrorisme du pauvre. La subversion, l'ingérence économique, les assassinats à l'étranger. C'est pour cela que la question n'est pas seulement que les Ukrainiens puissent repousser l'armée russe de leur territoire, mais c'est aussi qu'il puisse y avoir la reddition du régime politique qui a initié cette guerre d'agression criminelle.
Alors, on développera. Je rebondis sur les actes de terrorisme avec l'actualité, vendredi 22 mars, le terrorisme frappait à nouveau la Russie dans l'attentat de Crocus City Hall à Moscou, une opération revendiquée par l'État islamique qui a fait au moins 143 morts et une centaine de blessés. Quelles conséquences cet attentat peut-il avoir sur la guerre d'Ukraine, mais peut-être plus important, pourquoi cet attentat ?
Nous n'avons pas encore tous les éléments. Simplement, ce que nous savons, c'est que c'est donc un attentat qui a été organisé, commandité par l'État islamique du Khorasan, donc ce qu'on appelle la branche afghane de l'État islamique Daesh, même si ça va bien au-delà de l'Afghanistan. Et un attentat qui a été commis notamment par des hommes du Tadjikistan ou Tadjik et résidents en dehors du Tadjikistan. Et on connaît bien la haine de l'État islamique du Khorasan contre Poutine, contre sa guerre en Syrie, contre son alliance militaire avec l'Iran. Et surtout, leur détestation de Poutine vient de son soutien extrêmement public et affiché du régime des talibans qui ont pris le pouvoir de l'Afghanistan en 2021. Voilà, l'État islamique du Khorasan, ce sont des sunnites. L'autre aspect que nous maîtrisons relativement bien maintenant, c'est le fait que les autorités russes, du Kremlin jusqu'aux polices, aux FSB, étaient parfaitement informées de la dangerosité, de la menace venant de l'État islamique.
Washington avait également prévenu.
Washington et pas seulement, et d'autres services avaient prévenu. Et ils avaient eux-mêmes, les Russes, déjoué, semble-t-il, une tentative déjà d'attentat il y a quelque temps. Il y avait eu donc l'attentat aussi de l'État islamique contre les gardiens de la révolution en Iran début janvier dernier. Donc ils étaient tout à fait au courant. Et ce qu'on voit, c'est de nouveau un déni du chef. C'est-à-dire que Poutine soit n'a pas été informé, soit n'a pas voulu croire ce qu'on lui disait. Et ça, c'est quand même très, très effrayant, hein, parce qu'on constate un chef isolé et qui peut-être, mais ça, on ne peut pas être sûr, est manipulé par certains chez lui. C'est-à-dire parce que nous observons aussi les faits et ces quatre hommes qui ont été arrêtés ont pu sans aucun problème rentrer dans cette immense salle de concert. Ils y avaient été même plus tôt. Rentrer, il y avait zéro sécurité. Vous vous rendez compte, une salle de concert, 6000 places, pas très loin de la capitale. Il y avait zéro sécurité aux alentours. Il n'y avait pas de contrôle à l'entrée. Donc, ils ont pu rentrer sans problème avec des armes. Et ensuite, ils ont pu tirer à la Kalachnikov pendant 20 minutes. Ils ont pu mettre le feu, ils ont pu prendre le temps d'égorger certains des spectateurs. Ils ont pu ensuite sortir tranquillement, alors que tous les autres, des milliers de gens étaient enfermés et ne pouvaient pas sortir. Ils ont pu retrouver leur petite voiture Renault au même stationnement et repartir et conduire au moins 300 à 400 kilomètres. Donc, bien entendu, se pose la question de la complicité. Et si ce n'est pas de la complicité, c'est une incompétence totale. Et je crois que ça nous invite à réfléchir sur la dangerosité du système Poutine, non seulement de par ses moyens de destruction, de sa capacité à continuer une guerre en Ukraine, mais aussi du fait que l'homme qui est au sommet de ce système ne paraît pas du tout être capable de gérer son pays, de gérer ses organes, de donner des instructions aux commandants militaires. Et ça, c'est Ça veut dire qu'il y a une imprévisibilité, à la fois pour les Russes et ceux qui travaillent dans ce système, et puis pour tous les civils en Russie. Il y a une incertitude et une imprévisibilité pour les Ukrainiens et pour nous.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Alors, est-ce que, si on pousse le raisonnement plus loin, est-ce qu'on peut penser, imaginer qu'une action serait possible contre Vladimir Poutine au sein même du régime russe aujourd'hui? Et avec quel danger, finalement?
Alors, au sein du clan, ça me paraît difficile. Comme je le disais tout à l'heure, tous ceux qui sont restés dans cette sorte de cellule nucléaire poutinienne, on ne voit pas comment est-ce qu'ils pourraient se mettre d'accord entre eux. Mais ça, on ne sait pas. Pour ce qui est des autres élites dirigeantes autour, on ne voit pas trop de nouveau comment est-ce qu'ils pourraient se mettre d'accord, parce qu'ils sont quand même face à un clan qui tient toutes les forces armées, toutes les forces policières, les ressources financières, les ressources en gaz et pétrole. Une protestation sociale qui viendrait dans différentes régions et républiques de Russie, c'est une possibilité, mais là, les capacités de répression sont très grandes aussi. Ce que je souhaiterais souligner, c'est que cet acte de terrorisme du 22 mars dernier, ça a aussi montré la nature du régime comme exerçant la terreur d'État. C'est-à-dire qu'on a vraiment, ça a mis en lumière et en miroir les attentats terroristes et un État poutinien qui utilise la terreur à la fois chez lui et à l'étranger. Parce que vous avez certainement, comme nous tous, vu ces images terribles des quatre terroristes amenés devant des juges, si on peut appeler ces gens-là des juges, l'un avec une oreille coupée et des bandages absolument partout, et d'autres qui ne tenaient pas debout et qui avaient été torturés, avouant évidemment leurs crimes, et l'un disant même que, bien entendu, le commanditaire était ukrainien. Il faut appeler ça de la terreur d'État.
En tout cas, mais on ne va pas poursuivre trop là-dessus, parce que j'aimerais qu'on revienne à l'Ukraine. Vladimir Poutine risque de payer cher à la fois l'intervention en Syrie et le soutien aux talibans. C'est cela aussi qu'il faut entendre, Marie Madras, très rapidement.
Je ne suis pas sûre que Vladimir Poutine en paye les frais. C'est-à-dire qu'il n'est responsable de rien. Et nous n'arrivons pas à l'atteindre. Il y a toutes les pressions que nous mettons, les sanctions, l'aide à l'Ukraine. Je crains que cet acte terroriste, à chaque fois, ça lui fait très peur, comme la mutinerie Prigojine des milices Wagner l'été dernier lui avait fait très peur. Mais la façon dont cette dictature s'est fossilisée, je crois qu'il faudra plus qu'un attentat terroriste de plus.
Alors, dans la première partie de l'émission, Marie Madras, j'en reviens à l'Ukraine. Vous disiez que Vladimir Poutine ne pouvait pas gagner la guerre d'Ukraine. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi et comment. Et vous appelez dans votre ouvrage à plus de soutien de l'effort de guerre ukrainien jusqu'au retrait russe de tous les territoires occupés.
Vladimir Poutine ne peut pas gagner la guerre qu'il avait annoncée sous le nom d'opération militaire spéciale, qui était une guerre donc de totale destruction et occupation de l'Ukraine. Il n'avait jamais eu la moindre chance de la gagner. Donc je dirais que le jour où il a lancé cette opération militaire, il avait déjà perdu, si tel était le but de guerre. Puisqu'il a renforcé la cohésion de la nation ukrainienne, il a renforcé la solidarité, le pouvoir du président Zelensky, de son gouvernement. Il avait en fait complètement ignoré, et peut-être que ça ne lui était pas donné dans les briefings de ses services, le renforcement de l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre de 2014, parce que la guerre, elle a commencé avec la Crimée et le Donbass, l'occupation du Donbass en 2014. Et puis surtout, il semblait ne pas avoir pris au sérieux la création depuis 2014 de comités d'autodéfense dans toutes les villes d'Ukraine, absolument partout. Parce que c'est ça qui permet aux Ukrainiens de résister et de se battre, c'est la mobilisation de la population et de ces comités d'autodéfense qui ont permis aussi d'éviter l'avance des Russes et la prise d'un certain nombre de villes. Donc, cette guerre-là, elle était ingagnable dès le premier jour. Le danger pour nous aujourd'hui, nous les alliés de l'Ukraine, c'est que Vladimir Poutine choisisse à un moment, parce qu'il est acculé, de déclarer qu'il a gagné. Donc il dit, voilà, victoire, j'ai planté le drapeau russe à Mariupol, que j'ai par ailleurs détruite. J'ai planté le drapeau russe dans un certain nombre de grandes villes. La Crimée est toujours russe. D'ailleurs, rappelons-nous qu'il a totalement illégalement annexé 4 provinces de l'Est et du Sud-Est de l'Ukraine en septembre 2022, alors qu'il n'occupe pas entièrement ces 4 provinces. Mais il pourrait dire, mais voilà, j'ai gagné. En fait, moi, il me suffisait d'agrandir ces territoires ukrainiens qui reviennent à la Russie et qui permettent de défendre la Russie contre l'Occident satanique, contre les nazis ukrainiens, etc. Donc, il reste dans sa logique paranoïaque. Et il dit, voilà, j'ai gagné. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas négocier une paix, c'est de votre faute. Mais ça ne marchera pas du tout, puisque d'abord, les Ukrainiens n'accepteront jamais cette occupation. Et après tous ces bombardements, toutes ces exactions, comment serait même-t-il possible d'accepter cela ? Deuxièmement, Poutine est, je crois, dans une incapacité psychologique et politique de réellement négocier. Il ne dialogue plus vraiment depuis des années. Je ne vois pas comment il pourrait laisser certains de ses chefs négocier à sa place. Et enfin, nous, les alliés de l'Ukraine, nous avons enfin compris qu'il est exclu de s'installer dans un nouveau statu quo bien pire que celui de 2014, qui nous mettrait tous en insécurité, à tout point de vue. Insécurité, évidemment, de notre défense, insécurité de l'avenir de l'Ukraine, donc de l'avenir de la Géorgie et de la Moldavie, et puis insécurité au niveau des migrations, insécurité économique. Donc, il est devenu, je crois, à part peut-être un ou deux gouvernements dans l'Union européenne, il est exclu de laisser le régime poutinien occuper illégalement l'Ukraine. Donc, oui, cette guerre sera perdue par le régime poutinien, par l'armée russe, mais encore faut-il, pour cela, assurer non seulement tous les moyens aux Ukrainiens pour repousser militairement l'agresseur, mais donner aussi tous les moyens aux Ukrainiens pour pouvoir ensuite, avec nous, engager un processus de réconciliation avec de nouvelles autorités sous supervision internationale qui assureront la transition vers une nouvelle organisation politique, une nouvelle constitution en Fédération de Russie.
Une guerre qui promet pour l'instant d'être assez longue. Merci Marie Mindras. Je rappelle que vous êtes politologue au CNRS et aux séries de Sciences Po, professeur à Sciences Po, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Et vous venez de publier « La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin » chez Kalman Lévy. « Géopolitique » était signé Marie-France Chatin, Chloé Gomez et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.